Résignons-nous.
Carte blanche.
C'est eux qui employaient la menace du gros bâton.
La carte blanche de Stéphane Bureau.
Si tu savais comment on s'ennuie à la manie, tu m'écrirais bien plus souvent à la manie, couragon.
Stéphane.
Tu me prends par les sentiments.
Un petit peu de George Dor ce matin.
Oui, j'allais dire de vieux baby boomers, même si j'ai pas l'impression d'en être vraiment un. Théoriquement, je suis dans la mathématique ou dans la chronologie des baby boomers. Donc, George Dor, ça me parle de loin.
Moi aussi, ça me parle, même si je suis un vulgaire millennial, je pense. Je sais même plus.
Oui, c'est un peu confondant ces choses-là, mais vulgaire, tu ne l'es en rien. Surtout que depuis ce matin, on me rappelle, en écoutant notre jingle, que tu es le plus redoutable des démineurs de l'information, puisque tu désamorces toutes les bombes. Alors, voyons si j'en dépose une sur ton chemin, une bombe ou une mine. J'avais envie de revenir ce matin, c'est peut-être un peu banal, mais néanmoins, sur le discours inaugural de François Legault hier. C'est important. C'est important, comme tous les discours inauguraux, c'est le moment où on donne le là, où on dit, ben voici ce à quoi on va s'attaquer. D'autant que dans le premier mandat, inutile de le répéter, il y a plutôt la COVID qui s'est attaquée à nos priorités. Le gouvernement a été gouverné par les circonstances. Donc, plusieurs éléments. Il y avait quatre grands trucs que retenait M. Legault. Moi, j'en ai gardé deux. La manique, on y arrivera, c'est-à-dire la transition verte, produire de l'énergie verte. Et puis, avant toute chose, la langue. La langue qui est pour François Legault un enjeu existentiel. Je pense que c'est le mot qu'il a employé. On dit de ce qui est existentiel que ça nous renvoie en philosophie à notre condition de mortel. Et je pense que ce qui est vrai pour l'individu, cette angoisse l'est aussi pour une collectivité, parce que des collectivités, ça s'est vu dans l'histoire, peuvent mourir. Il n'y a pas beaucoup de choses qui nous définissent collectivement ici au Québec, qui distinguent notre communauté. La langue, dans ce sens-là, est certainement existentielle. Puis, je ne veux pas faire de détour par la leçon de philosophie, j'en aurais pas le talent ou la connaissance, mais pour ce que j'en comprends et j'en sais, tu sais, dans la pensée existentialiste qui a été définie par Jean-Paul Sartre, on découvre, c'était pas nouveau, mais il met le doigt sur quelque chose, l'angoisse de l'homme avec un H majuscule devant l'existence. Tu sais, alors, qu'est-ce qui peut nous permettre de transcender l'angoisse, c'est qu'on peut agir. C'est une philosophie de l'action. On est, dans le fond, la somme de nos actions. Et l'avenir du français dépend aussi, je pense, beaucoup de ce qu'on va justement faire de nos actions collectivement. Alors, il y a ce qu'un gouvernement a les moyens de nous proposer avec une loi 101 qui pourrait être revigorée, avec la loi 96 qu'on s'est déjà donnée. Mais il y a aussi tout ce qu'on peut faire individuellement. Parce qu'une langue, c'est un outil de transaction. Par exemple, on en parle beaucoup cette semaine dans la santé, n'est-ce pas? On dit, est-ce que c'est normal de ne pas pouvoir recevoir de services en français quand on va à l'hôpital? Puis, on va relativiser la chose en disant, oui, mais le premier des trucs qui nous intéressent quand on va se faire traiter, c'est d'avoir des services efficaces, donc un médecin, des médecins, infirmiers, infirmières, capables de nous traiter. Puis je dirais, la langue demeure quand même, parce que je parlais d'outils de transaction essentiels, parce que pendant des siècles, le seul moyen de diagnostiquer la maladie, c'était la conversation, c'était la capacité qu'avait un patient et le traitant de dire le mieux possible ce que le patient ressentait. Puis encore aujourd'hui, c'est probablement un des meilleurs outils de diagnostic qu'on utilise très peu parce que le temps est compté chez nos médecins. Mais si on n'avait pas de machine pour diagnostiquer, si on n'avait pas de scan et tout ça, la parole est encore un des moyens les meilleurs. Donc, se faire comprendre, c'est pas anecdotique quand on va à l'hôpital ou devant son médecin. Et c'est là que je dis, bien évidemment, c'est un outil transactionnel, effectivement, que la langue, mais c'est aussi une manière de comprendre, de déchiffrer et de raconter le monde d'une langue. C'est plus qu'un outil justement transactionnel, c'est une manière d'âme collective. Et je crois vraiment à ça. Mm. Ça a l'air un peu ésotérique, mais je pense
que c'est
ça. Non,
mais j'avais lu une recherche que tu penses différemment en anglais puis en français.
But of course, my friend.
Ben oui, mais peut-être que, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, tu sais, quand t'es aux États-Unis, par exemple, tu parles beaucoup en anglais, tu rêves en anglais.
Oui,
il me semble que les rêves sont différents, ton état d'esprit est différent, tu penses à des idées différentes.
Ben, je sais pas si c'est des idées différentes, parce qu'on pense autrement, puis je pense aussi qu'on rentre dans l'intimité de quelque chose à travers la langue. Mm. Et c'est pas ici un glissement érotique que je fais quand je dis qu'on est dans l'intimité avec la langue. C'est vrai, quand je me suis mis à bien parler et comprendre l'espagnol, y a vraiment une autre intelligence des choses qui se fait, parce que tu rentres dans l'intimité de quelque chose d'extraordinaire, qui est une langue étrangère certainement, mais qui permet de comprendre, de décoder aussi des civilisations, des groupes d'individus à travers justement cette langue. Et c'est donc effectivement pour moi une manière d'âme collective. Ça mérite d'en être fier, ça mérite de la faire briller, et au plus haut niveau, c'est tout le contraire, quant à moi, de l'avachissement. Une langue, c'est exigeant. Tu sais, un cabaret, c'est pas un plateau. Être versatile, c'est pas être polyvalent, puis c'est pas juste de la sémantique, c'est le plaisir de trouver les mots justes. Puis l'exigence, c'est pas un snobisme, c'est une aspiration. Demander à des profs de bien parler et d'écrire, ça devrait être une forme de jeu, évidemment, mais d'émulation, d'aspiration, attirer nos enfants vers le haut, je crois ça absolument. Et je le répète, ce n'est pas un snobisme. Être capable de bien nommer les choses, c'est aussi être capable de bien penser. Et si on veut demander aux nouveaux aspirants de parler le français, encore faut-il qu'on en soit fier et qu'on puisse aussi le parler avec conviction. C'est très, très, très important. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas en ce moment au Québec, mais je pense que c'est une ambition qu'il faut se répéter. Il n'y a pas de complaisance possible. Ça doit être une fierté de tous les instants. Le plaisir des mots et même de la conversation, je te dirais que c'est constitutif du succès, évidemment, de notre langue et de notre capacité attractive à dire à de nouveaux immigrants, le jeu en vaut la chandelle. Ce qui m'a un peu, non pas découragé, mais peut-être découragé hier, c'est cette espèce d'objectif d'une immigration qui serait 100% francophone d'ici quelques années. Donc, du renoncement de notre capacité à convaincre et à former des gens qui choisissent de se joindre à nous, mais qui ne seraient pas au départ francophones. Donc, on s'empêcherait aussi d'aller recruter.
Mais là, on se disait francotrope, là. Fait que, mettons que tu parles un peu espagnol, t'es comme plus capable d'apprendre le français, que ce serait comme correct, ça.
Franco-trope.
C'est la nouvelle bébelle. Hey, on en parle là, mais je suis sûr qu'on va en entendre parler encore.
C'est comme le comité consultatif du ministre Dubé pour régler les problèmes à l'urgence. T'sais, on en a parlé le jour où on l'a annoncé. Est-ce que les problèmes à l'urgence ont été durablement réglés? J'en sais strictement rien, mais j'ai comme l'intuition que c'est ça. Alors, je vais faire appel à tous les francotropes de la planète. Mais ce que ça dit aussi, c'est qu'on n'a pas été capable, nous, de créer les conditions pour rendre ça attrayant. On n'a pas été capable de bien recevoir, d'encadrer, de faire en sorte que le français soit appris. Puis peut-être aussi au passage de renoncer à des objectifs totalement débiles comme au bout de 6 mois, tu es censé maîtriser le français. Quelqu'un qui a 40-50 ans, qui arrive de n'importe où, mais plus forte raison d'un pays, par exemple, arabophone, et pour lequel, justement, il n'y a rien de francotrope sur son horizon. Au bout de 6 mois, est-ce que c'est normal que tu puisses ne pas encore parfaitement te débrouiller en français? Je pense qu'on peut l'accepter sans pour autant renoncer. Donc, je dis, il y a là pas une forme d'échec, mais en tout cas d'insuccès un peu désespérant, et qu'on vise une immigration francophone ou francotrope, bien, mais qu'on ne renonce pas pour autant à faire en sorte de convaincre les gens que le français n'est pas le mauvais pari. Je ne pense pas qu'il y ait des immigrants qui vont arriver au Québec en se disant « j'apprendrai pas l'anglais ». C'est pas un enjeu. On veut, comme francophone, le maîtriser, le comprendre. Puis de toute façon, on l'apprend à nos dépens par les médias, par ce qui nous entoure, puis je dis à nos dépens avec, évidemment, des guillemets. Qu'on soit tellement convaincu de ce que le français est un atout. Tu sais, le jour où tu débarques à quelque part et tu dis « Hey, ils savent quelque chose que je ne sais pas », ça a l'air vraiment trippant, le français, ça a l'air vraiment exceptionnel. Puis en plus, c'est une langue vraiment vivante qui peut m'aider. Bien, tu vas vouloir l'apprendre, tu vas vouloir te joindre à une culture dynamique. Tu n'as pas envie d'être en marge de ça. Et c'est, moi, je pense là que se joue une partie de la bataille, pas seulement dans les contraintes qu'on imposera. Ceci étant dit, elles sont évidemment nécessaires, que ce soit une nouvelle loi 101 ou autre chose. Mais d'abord et avant tout, ne pas renoncer à le bien parler le français sans jamais penser que ça soit un snobisme. Puis le deuxième enjeu que je retenais, j'imagine que ça a un peu percuté chez toi aussi, c'est la transition verte.
Ben oui.
Parce que je pense qu'il faut qu'on se prépare à de vrais débats qui risquent d'être vigoureux. On peut pas vouloir une chose et son contraire. Par exemple, plus d'énergie verte produite au Québec, sans soulever la question de nouveaux barrages, possiblement. À ce jour, en tout cas, je suis pas convaincu que les éoliennes puissent se substituer à ce qu'on a de potentiel hydroélectrique. Puis c'est pas un appel que je fais, hein. Je fais juste dire de deux choses l'une, on veut plus d'énergie verte ou on n'en veut pas. L'hydroélectricité, c'est un avantage si on veut produire, par exemple, au Québec, de l'acier vert, de l'aluminium vert, parce que ça existe maintenant. C'est-à-dire produire de ces matériaux, de ces métaux, sans qu'il y ait d'empreinte carbone. Mm. Alors, c'est relativement facile parce qu'effectivement, on fait de l'hydroélectricité. Le premier des virages, ce sera de faire en sorte qu'on produit cet acier, par exemple, plus efficacement, parce qu'à ce jour, au Québec, on ajoute très peu de valeur avec l'énergie disponible. On est très, très énergivore. Mais il y a toujours la question de la source d'énergie. Et si on me dit, ben oui, à ce moment-là, il faudra peut-être réduire nos exportations pour ne pas construire de nouveaux barrages, soit, mais tu sais, d'autres sources d'énergie vont donc être nécessaires chez nos voisins qui n'auront plus notre hydroélectricité. Mmh. Puis si on croit au changement climatique...
C'est aussi qu'on a Churchill Falls qui va venir à échéance un moment donné.
Exactement.
On a une belle source d'hydroélectricité presque gratuite qu'on n'aura plus bientôt. Là.
Voilà. Et donc, les solutions, mais les problèmes sont une série de vases communicants. Donc, si on choisit de ne plus exporter ou de moins exporter pour être plus autonome, ben c'est nos voisins qui auront des questions à se poser. Puis, avec quoi vont-ils produire leur énergie? Puis, dans un monde où on veut aller au tout électrique, ça va prendre du jus, beaucoup de jus. Mm. Quand ce rêve de la voiture électrique ne sera plus un rêve, puis on verra si c'est à terme un cauchemar, mais si c'est ce rêve qu'on a en tête, ça va prendre beaucoup, beaucoup d'énergie électrique pour alimenter tout ça. Et le Québec est une partie de la solution parce qu'ailleurs en Amérique, ça va se faire avec des centrales thermiques où on aura secoué certains tabous. C'est pas la première fois qu'on en parle. Est-ce que l'énergie nucléaire, atomique, est une des solutions dans le panier? Ça fait terriblement peur. Alors, on peut pas avoir peur de tout et ne pas non plus poser la question de ce qu'il faut peut-être... construire de nouveaux barrages. Et si on pose la question, c'est en acceptant que c'est dévastateur sur les territoires, qu'il y a des dommages collatéraux. Et là, c'est dans la balance triste des inconvénients. Qu'est-ce qui est le plus durable? Mais on ne peut pas s'empêcher d'avoir ce débat et le plus rapidement possible, parce que c'est vrai, je pense que là-dessus, M. Legault, comme n'importe qui serait dans ses chaussures, fabule pas. Si on veut lancer des projets, il faut voir à long terme, parce que c'est pas le jour où tu décides que tu le fais, que tu as cette hydroélectricité à ta disposition.
Regarde le troisième lien, là. On n'a même pas commencé à penser à peut-être creuser, on n'a même pas de pont puis d'études, puis c'est juste pour un tunnel. Fait qu'imagine arnacher une rivière avec toutes les conséquences que ça va avoir, le rebranchement, l'acceptabilité. L'habilité sociale, la négociation avec les Premières Nations.
Oui, et toujours la même affaire. Peut-on avoir une chose et son contraire? J'en suis pas convaincu.
Mais tu vois, hier, j'avais la présidente de l'Association des biologistes du Québec qui me disait, puis j'ai posé la question, on fait quoi? Si on a un barrage, puis ça affecte la biodiversité, mais le barrage nous permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre, donc de ralentir le réchauffement de la planète, donc de ralentir la fin et la mise en péril de certaines de ces espèces-là, on choisit quoi entre les deux? Il faut en parler. Il faut trouver une solution, puis on est capable de faire les deux. Elle était plus optimiste que toi.
Je ne suis pas pessimiste. Je dis que c'est pas possible de le faire sans qu'on en débatte.
Ah oui,
et tu
ne
peux pas
sûr.
Commencer en disant, M. le Premier ministre, c'est non négociable, on ne peut plus rien faire avec nos rivières. Et je suis le premier à dire que c'est un capital sacré. Et il y a effectivement des dommages collatéraux énormes. Mais où est-ce qu'on lâche du lest? Est-ce qu'on peut tout avoir? Si c'est le cas, je demande la recette.
Stéphane, on veut tous, tout avoir et on espère avoir
sans
à Noël.
Sans payer le prix.
Bonne journée. Là.
Salut.